connaître l'essentiel sur les cahiers de douai de Rimbaud, je vous propose d'abord un point sur le contexte, puis je vous révélerai les clés et les secrets de chacun des 22 poèmes. Le contexte, une soif de liberté. À Charleville-Mézières, début 1870, Rimbaud a 15 ans. À l'école, il reçoit de nombreux prix d'excellence, mais il veut rejoindre, à Paris, le Parnasse, ce nouveau mouvement littéraire prestigieux. Le 24 mai 1870, il envoie ses premiers poèmes à Théodore de Banville, car il espère être publié dans le Parnasse contemporain. Si je vous envoie quelques-uns de ses vers, c'est que j'aime tous les poètes, tous les bons parnassiens, épris de la beauté idéale. C'est bête, n'est-ce pas, mes enfants? Vous percevez cette ironie et cette autodérision? Rimbaud est déjà frondeur, mais il se morfond. Il n'est pas publié, sa mère surveille ses lectures, et la France déclare la guerre à la Prusse en juillet 1870. Ma patrie se lève, moi j'aime mieux la voir assise. J'espérais des journaux, des livres, rien, c'est la mort. En août 1870, Rimbaud fait plusieurs fugues. Il est même arrêté parce qu'il n'a pas de billet de train et est mis en cellule. Il écrit alors à son ancien professeur de rhétorique, Georges Isambard. Arrêté pour n'avoir pas un sou, j'attends mon jugement à Mazas. Faites tout ce que vous pouvez, je vous aime comme un frère, je vous aimerai comme un père. En novembre 1870, Rimbaud retrouve son ami poète Paul de Mesny à Douai et lui confie 22 poèmes. Ses cahiers de Douai retracent donc l'évolution de son écriture pendant ses 5 derniers mois d'errance. Un recueil décisif. Attention, ces cahiers sont en fait des feuillets séparés. On en déduit l'ordre chronologique par des études graphologiques. Voilà pourquoi certains spécialistes parlent plutôt de recueil de Mesny. Le 15 mai 1871, Rimbaud écrit sa fameuse lettre du voyant. C'est l'aboutissement d'une longue maturation. Je dis qu'il faut être voyant, se faire voyant. Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. Toutes les formes d'amour, de souffrance, de folie, il épuise en lui tous les poisons, pour n'en garder que les quintessences. Et voilà que, pas même un mois plus tard, Rimbaud demande à Paul de Mesny de brûler les poèmes qu'il lui a confiés. « Vous respecterez ma volonté comme celle d'un mort, brûlez tous les vers que je fus assez sot pour vous donner lors de mon séjour à Douai. » Heureusement, Paul de Mesny n'en fit rien. Mais cela révèle une chose, ces fameux cahiers de Douai sont pour Rimbaud une étape décisive d'élaboration de sa poétique personnelle. C'est ce qu'on va essayer de comprendre en découvrant ces 22 poèmes. Premier cahier, première soirée. En abordant ce premier poème, le lecteur se trouve placé en position de voyeur parmi des arbres à la fenêtre d'une chambre. Elle était fort déshabillée et de grands arbres indiscrets aux vitres jetaient leurs feuillets malinement tout près, tout près. Les arbres assistent à une petite comédie dans l'esprit grivois du XVIIIe siècle. Le poème s'appelait d'abord « Comédie en trois baisers », chaque baiser étant comme un acte d'une pièce de théâtre. L'intrigue est la suivante, ses caresses seront-elles partagées? Je baisais ses fines chevilles, elle eut un doux rire brutal. Les deux jeunes gens rient de leurs amours mièvres, mais ils sont très conscients de leur jeu, un peu comme des personnages de Marivaux. Monsieur, j'ai deux mots à te dire. Je lui jetai le reste au sein dans un baiser qui la fit rire, d'un bon rire qui voulait bien. Le dernier quatrain est exactement le même que le premier. Mais entre-temps, on voit bien que la situation a changé. C'est par pudeur que le poète se retourne vers les arbres indiscrets. Sensation. Ce poème est rédigé au futur, il annonce un projet, et face aux Parnassiens, il revendique la simplicité et la petitesse. Ce qui est élevé, la tête, est nu. Ce qui est aux pieds, l'herbe, est menu. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds, je laisserai le vent baigner ma tête nue. Rimbaud pense à Demain dès l'aube de Hugo. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Mais il fait exactement l'inverse, il cesse de penser, il fixe toute son attention sur la nature. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien, mais l'amour infini me montera dans l'âme. Par cette sensation d'infini, Rimbaud s'éloigne déjà d'un amour adolescent pour aller vers un amour de la nature et de la liberté. Et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien, par la nature, heureux comme avec une femme. Est-ce que vous entendez comment l'adjectif « loin » prend un sens plus profond la deuxième fois? C'est une antanaclase, la répétition d'un mot en deux sens différents. Ces 8 vers ressemblent à un sonnet inachevé dont on aurait enlevé les deux tercets. Est-ce que cela signifie que les poèmes qui suivent seront la volta et la pointe? Daté 5 mois plus tard, ma bohème reviendra sur cette expérience, mais au passé. Le forgeron. Lors de l'anniversaire du serment du jeu de paume, le 20 juin 1792, le peuple se rend aux Tuileries et un boucher s'adresse au roi, qui doit se coiffer du bonnet phrygien et boire à la santé de la nation. Rimbaud reprend cette anecdote, mais change le boucher en forgeron. Comme le poète, c'est un créateur, un voleur de feu, capable de forger des armes. C'est aussi un visionnaire. Il montre au roi, Louis XVI, la foule, arrache même les rideaux de la fenêtre. C'est une scène très théâtrale. L'homme par la fenêtre ouverte montre tout, au roi pâle suant qui chancelle debout. Ce roi pâle est un symbole, un régime monarchique malade, à bout de souffle, qui chancelle. En face, le peuple subit les injustices. « On ne veut pas de nous dans les boulangeries, j'ai trois petits, je suis crapule. » Être père de famille, nourrir ses enfants, quand les boulangeries ferment, conduit vers l'illégalité. Rimbaud reprend donc ironiquement les mots des dominants, crapules, pour dire l'inverse, ce sont des citoyens honnêtes. C'est terrible et ces causes que se sentant brisés, que se sentant damnés, ils viennent maintenant hurler sous votre nez. Corps brisé, âme damnée, c'est une grande allégorie. Les injustices transforment le peuple en chien, puis en loup, qui viennent hurler pour réclamer la justice. Aux yeux de Rimbaud, l'erreur de la monarchie est aussi celle du Second Empire et de tout régime qui ne respecte pas le peuple. Soleil et chair, c'est le fameux poème que Rimbaud envoie à Théodore de Banville, espérant être publié dans le Parnasse contemporain. Il reprend donc le style parnassien, d'une forme sophistiquée, mettant l'art et la beauté avant tout. Mais il propose en même temps une mythologie très personnelle, voire même un peu provocatrice. En effet, le poème s'appelle d'abord « Credo in unam »,« Je crois en une seule déesse », qui détourne le credo chrétien, « Credo in unum ». Cela met donc en avant le principe féminin. Vénus, déesse de la beauté et de l'amour, sera à la fois muse et puissance de vie. Mais le principe masculin n'est pas absent. Le soleil personnifié ouvre la métaphore filée. Il verse une lumière qui devient sang puis sève d'une vallée, grand lit où le poète se couche. Le soleil, le foyer de tendresse et de vie, verse l'amour brûlant à la terre ravie. Et quand on est couché sur la vallée, on sent que la terre est nubile et déborde de sang. Alors, l'écorce devient flûte de pan, puis nymphe, et enfin, hymne de couleurs et de baisers. C'est une grande métonymie, glissement de sens par proximité, où la musique est un véritable printemps. L'eau du fleuve, le sang rose et des arbres verts, dans les veines de Pan mettait un univers, où, baisant mollement le clair syrinx, sa lèvre modulait sous le ciel le grand hymne d'amour. Remontant encore plus loin dans le passé, Rimbaud retrouve un paradis perdu où Cybèle, déesse très ancienne, mère des dieux, nourrit les hommes. Mais bientôt, la jeunesse est remplacée par la connaissance de choses qui rendent l'homme hermétique aux visions des poètes. Je regrette les temps de la grande Cybèle. Parce qu'il était fort, l'homme était chaste et doux. Misère maintenant, il dit. Je sais les choses, et va, les yeux fermés et les oreilles closes. Ophélie. Ophélie est un personnage de Shakespeare, fiancée à Hamlet, prince de Danemark. Elle le voit tuer un homme caché derrière un rideau. Il croyait que c'était le roi usurpateur, ce n'était que Polonius, le père d'Ophélie. Elle sombre alors dans la folie et se suicide dans un fleuve. Allongée dans l'eau, recueillie par la nature, elle préfigure le dormeur Duval, lui aussi victime d'enjeux de pouvoir humain contre nature. Alors le murmure devient chant de mort, élégie, puis véritable conte fantastique, surnaturel. Les nombreux enjambements nous donnent à voir les mouvements de cette folie personnifiée en fantôme. Voici plus de 1000 ans que la triste Ophélie passe fantôme blanc sur le long fleuve noir. Voici plus de 1000 ans que sa douce folie murmure sa romance à la brise du soir. Ophélie, fragile et innocente comme la neige, offre sa chevelure, c'est-à-dire son esprit, au vent de Norvège, c'est-à-dire à tous les éléments naturels. S'excluant du monde humain, elle écoute d'autres valeurs, l'amour, la liberté. Ô pâle Ophélia, blanche comme la neige, oui, tu mourus, enfant, par un fleuve emporté, c'est que les vents tombants des grands mondes de Norvège t'avaient parlé tout bas de l'âpre liberté. Le poète voyant, inspiré par ce personnage, voit dans ses fleurs des rêves, des poèmes dont il s'empare à son tour. Et le poète dit qu'au rayon des étoiles, tu viens chercher la nuit les fleurs que tu cueillis, et qu'il a vu sur l'eau, couchée en ses longs voiles, la blanche Ophélia flotter comme un grand lys. Ophélia est peut-être pour Rimbaud l'annonciatrice d'une poésie féminine à venir. Quand sera brisé l'infini servage de la femme, elle trouvera des choses étranges, insondables, repoussantes, délicieuses. Nous les prendrons, nous les comprendrons. Bal dépendu. C'est à l'origine un devoir de français. Les élèves devaient écrire une lettre demandant au roi la grâce du poète Villon, qui échappa en effet de peu à la pendaison. Le sujet inspire Rimbaud, qui se met du côté des marginaux, transformant les paladins des romans de chevalerie en figures hérétiques, Saladin étant le sultan d'Égypte de la Troisième Croisade. Au gibet noir, manchot aimable, danse, danse les paladins, les maigres paladins du diable, les squelettes de Saladin. Cette vision d'horreur est burlesque, la forme grotesque sert à dire des choses élevées. Un festin où les tréteaux, comme les estomacs, sont vides et où la musique est dissonante. Hourra, les gais danseurs qui n'avaient plus de panse, on peut cabrioler, les tréteaux sont si longs. Hop, qu'on ne cache plus si c'est bataille ou danse, Belzébuth enragé racle ses violons. Au moins trois visions se superposent ici. Les pendus avec les corbeaux, les danseurs avec leurs chapeaux, les combattants fantômes avec leurs casques panachés. Le poète lui-même, à la fois damné, musicien, capitaine des marginaux, nous interpelle et intervient dans la bataille. Oh, voilà qu'au milieu de la danse macabre, bondit par le ciel rouge un grand squelette fou. Mais il est retenu par une corde, symboliquement entravée par des règles, il est en quête de liberté. Emporté par l'élan, la corde raide au cou, comme un baladin rentre dans la baraque, rebondit dans le bal au chant des ossements. Ce grand squelette, fou comme Ophélie, qui bondit et rebondit, rappelle bien sûr ces poètes dont Rimbaud veut poursuivre l'horrible travail dans sa lettre du voyant. Viendront d'autres horribles travailleurs, ils commenceront par les horizons où l'autre s'est affaissé. Qu'il crève dans son bondissement par les choses inouïes et innombrables, viendront d'autres horribles travailleurs, ils commenceront par les horizons où l'autre s'est affaissé. Le châtiment de Tartuffe. La mère de Rimbaud l'oblige à lire la Bible. À l'école, il côtoie des séminaristes. À 15 ans, Rimbaud est révolté contre l'Église. Il écrit même une nouvelle anticléricale, un cœur sous une soutane. Ce Tartuffe, avec un seul F, incarne un faux dévot, mais aussi tous ceux qui correspondent à cet oxymore, effroyablement doux. Car la dissimulation est double. Comment peut-on savoir que la main est gantée puisqu'elle est sous la soutane? Elle symbolise toutes les malversations et toutes les passions cachées. Tisonnant, tisonnant son cœur amoureux sous sa chaste robe noire, heureux, la main gantée, un jour qu'il s'en allait, effroyablement doux. Voilà le pouvoir de la satire et de la littérature engagée. Elle révèle des vérités cachées. Le geste, arrachant sa robe, est théâtral. Les mots sont performatifs. La parole est aussi un acte. Le méchant, Molière lui-même, est donc plutôt un bienfaiteur. Un méchant le prit rudement par son oreille benoîte et lui jeta des mots affreux en arrachant sa chaste robe noire autour de sa peau moite. Ces dénonciations réalisent l'ambition de la pièce de Molière. Les grains du chapelet, déboutonnés, mettent à nu tous les péchés de tous les dissimulateurs, passés, présents et futurs. Châtiment, ses habits étaient déboutonnés et le long chapelet des péchés s'égrenant dans son cœur, il se confessait. Peu, Tartuffe était nu du haut jusqu'en bas. Cette dernière réplique reprend celle de Dorine, la suivante forte en gueule de la pièce de Molière, tandis que le mot châtiment fait référence à Hugo, dénonçant Napoléon III. L'acrostiche, Jules César, dénonce même tous les hommes de pouvoir. Vénus Anadyomène. C'est un thème célèbre en histoire de l'art. Vénus, déesse de la beauté, naît de l'écume des eaux. Rimbaud le détourne ici pour faire référence au grand débat qui traverse le 19e siècle. D'abord, le coquillage de Vénus est presque une tombe. Comme d'un cercueil vert en fer blanc, une tête de femme à cheveux bruns fortement pommadés, d'une vieille baignoire émerge lente et bête, avec des déficits assez mal ravaudés. Toute une tradition artistique fait ainsi allusion à la mort, les vanités en peinture, la poésie de Ronsard qui rappelle la brièveté des roses. Rimbaud donne ainsi une suite à la célèbre charogne de Baudelaire, fleur du mal qui interroge les limites de la beauté. Dans ce tableau, tout est dégradé, avec la rime en D, pommadé, des déficits mal ravaudés. Ravaudé, c'est-à-dire cousu, comme la célèbre créature du roman de Mary Shelley, Frankenstein. Anadyomène signifie « sortie des eaux ». Or justement, l'émergence de ce corps est sans cesse contrariée. Puis le col gras et gris, les larges omoplates qui saillent, le dos court qui rentre et qui ressort, puis les rondeurs des reins semblent prendre l'essor. C'est bien le jeu de regard qui donne tout son sens à ce poème. Le naturaliste ose scruter une vérité qui n'a rien de beau. Des singularités qu'il faut voir à la loupe. C'est donc peut-être aussi le regard ironique du proxénète sur une prostituée, découvrant le signe de maladie vénérienne, symbole d'une société elle-même décadente et sans empathie. Les reins portent deux mots gravés, Clara Vénus, et tout ce corps remue et tend sa large croupe, belle hideusement d'un ulcère à l'anus. Les réparties de Nina. Dans Première soirée, on percevait bien le regard amusé de Rimbaud sur les amoureux, mais sans moquerie. Ici, c'est très différent. Tout l'intérêt du poème est justement de déceler l'ironie qui dénonce l'excès de sentimentalisme qui fait rire Nina. Lui, c'est un jeune poète qui invite son amoureuse à se promener, mais très maladroitement. Comment pourrait-il marcher poitrine contre poitrine? Alors que le titre du poème suggère un dialogue, en réalité, il multiplie les conditionnels et les questions sans réponse. Lui, ta poitrine sur ma poitrine, hein, nous irions, ayant de l'air plein la narine, offririons du bon matin bleu qui vous baigne, du vin du jour. Dans un premier temps, la seule réponse de Nina, c'est son rire, qui revient en début de vers, riant en riant. Et on devine déjà une certaine réticence que le poète ne perçoit pas. Il multiplie les taquineries, se compare à un papillon. Riant à moi, brutale d'ivresse qui te prendrait, comme cela la belle tresse. Oh, qui boirait ton goût de framboise et de fraise, oh chair de fleur. Les cheveux de Nina, noués en tresse, révèlent déjà une certaine réserve. Mais sa réponse finale est brutale, inattendue, et a une dimension symbolique. Le rival du poète est un employé de bureau. La réalité balaye les idéaux du poète romantique. Tu viendras, je t'aime, ce sera beau. Tu viendras, n'est-ce pas, et même ? Et mon bureau ? À la musique. Dans ce poème, Rimbaud décrit la place de la gare de sa ville natale, Charleville-Mézières, qui caricature bientôt tout un ordre social. Sur la place taillée en mesquine pelouse, square où tout est correct, les arbres et les fleurs, tous les bourgeois poussifs qu'étranglent les chaleurs portent les jeudis soirs leurs bêtises jalouses. Sous cet ordre artificiel qui contraint la nature, on voit tout de suite déborder des appétits étranglés. Tout est correct, et parfaitement ironique, rien n'est vraiment correct si l'on observe bien. L'orchestre militaire au milieu du jardin balance ses shakos dans la valse des fifres. Autour, au premier rang, parade le gandin, le notaire panta ses breloques à chiffres. Toute la société du Second Empire est visée, les militaires au centre, puis les notables, et plus on s'éloigne, plus les classes sociales sont basses, rentiers, employés de bureau, épiciers. Des rentiers à lorgnon soulignent tous les couacs. Les gros bureaux bouffis traînent leurs grosses dames, auprès desquelles vont, officieux cornac, celles dont les volants ont des airs de réclame. La caricature est féroce, les cornacs par exemple conduisent normalement des éléphants. À la rime, les couacs représentent les défaites militaires contre la Prusse. Les piou-piou sont les soldats en permission. Mais celui qui vient en dernier, le poète lui-même, n'est pas épargné par la satire. Moi, je suis, débraillé comme un étudiant, sous les marronniers verts les alertes fillettes. Elles me trouvent drôle et se parlent tout bas, et je sens les baisers qui me viennent aux lèvres. Rimbaud se moque de son propre stéréotype. Les baisers qui lui viennent aux lèvres sont en fait des poèmes. Derrière la musique du fifre se cache celle de l'amour qui rend naïf, mais aussi celle de la liberté et de la poésie qui émancipe. Et cela explique la dédicace du titre, à la musique. Les effarés, ces enfants qui nous tournent le dos et contemplent une boulangerie, est un tableau symbolique très riche. Détail amusant, le mot cul était remplacé par dos dans les anciens manuels scolaires. Noir dans la neige et dans la brume, au grand soupirail qui s'allume, leurs culs en rond. Dans ce poème, tout chante. Ce boulanger est déjà une figure du poète, créateur comme le forgeron, généreux par son sourire. Ils écoutent le bon pain cuire, le boulanger au gras sourire chante un vieil air. Nous assistons alors à une véritable opération alchimique. Tous les sens sont mobilisés, la pâte grise devient pain jaune, le soupirail devient un être vivant. Quand ce trou chaud souffle la vie, ils ont leur âme si ravie sous leur haillon qu'ils sont là tous. Ce verbe d'état, ils sont là, prépare la déception finale. La situation initiale sera inchangée. Tous les êtres vivants, les plus misérables, comme ces enfants qui ressemblent à des chatons, ressentent cette faim, véritable prison immatérielle. Collant leurs petits museaux roses au grillage, chantant des choses entre les trous. En filigrane, le mythe de la caverne de Platon. Les humains ne voient que des ombres et des lumières. Seul le philosophe perçoit l'essence réelle des choses. Pour Rimbaud et les symbolistes, c'est le poète qui a ce rôle. Ses visions, son empathie, lui permettent de comprendre des vérités cachées, de réchauffer une humanité gelée. Donc le poète est vraiment voleur de feu. Il est chargé de l'humanité, des animaux même. Il devra faire sentir, palper, écouter ses inventions. Roman. Rimbaud se moque des chagrins d'amour excessifs des romans à l'eau de rose. Dans ce poème, on trouve une ironie très proche de celle de Flaubert. Chaque double quatrain est le chapitre d'une éducation sentimentale sans conséquence. L'aventure du personnage principal ne ressemble en rien aux fugues de Rimbaud. Il se contente d'aller sur la promenade, ne s'éloigne pas de la ville. Il prend pour de l'ivresse le parfum des vignes qui se mêle à celui des tilleuls et qui rappelle plutôt celui d'une tisane. Les tilleuls sentent bon dans les bons soirs de juin. L'air est parfois si doux qu'on ferme la paupière. Le vent, chargé de bruit, la ville n'est pas loin, a des parfums de vignes et des parfums de bière. Mais voilà qu'il croise une jeune fille. On la devine d'une bonne famille, accompagnant son père, portant des bottines. Lui se croit dans un roman d'amour, il se met à écrire des poèmes. Et comme elle vous trouve immensément naïf, tout en faisant trotter ses petites bottines, elle se tourne alerte et d'un mouvement vif Sur vos lèvres alors meurent les cavatines. L'émotion est palpable lorsqu'il reçoit enfin une lettre d'elle. Mais des signes nous laissent déjà deviner la déception finale. C'est une lettre de rupture. Le jeune homme retourne aux cafés éclatants et l'on retrouve l'aphorisme du début. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans et qu'on a des tilleuls verts sur la promenade. Mais cet aphorisme « on n'est pas sérieux quand on a 17 ans » prend alors un autre sens. Ni l'aventure amoureuse, ni le retour à la situation initiale n'étaient sérieux. On devine que l'intention de Rimbaud est déjà de vivre des aventures autrement plus sérieuses. Sortir des sentiers battus, partir dans la nature, vivre ce qu'il appellera plus tard une saison en enfer. Mort de 92. Quand Napoléon III déclare la guerre à la Prusse le 17 juillet 1870, Paul de Cassagnac, député anti-républicain, évoque « vos pères de 1792 » dans un article du journal Le Pays. Rimbaud s'indigne, il veut rappeler que ses soldats sont morts pour la République. Il écrit donc un poème engagé pour représenter des soldats de basse extraction morts pour des valeurs élevées et universelles, la liberté et la raison, l'âme et le front de toute humanité. Mort de 92 et de 93, qui pâle du baiser fort de la liberté, calme sous vos sabots, brisiez le joug qui pèse sur l'âme et sur le front de toute humanité. Rimbaud n'hésite pas à reprendre la célèbre image de la Marseillaise. Pour lui, c'est bien le sang des soldats révolutionnaires, et non celui des nobles, qui a fertilisé les vieux sillons de l'Ancien Régime. Ô soldats que la mort a semés noble amante, pour les régénérer dans tous les vieux sillons. Les deux derniers pronoms font exploser une double indignation. Non seulement ils osent parler de vous, mais ils en reparlent à nous, leurs héritiers républicains. Nous vous laissions dormir avec la République, nous, courbés sous les rois comme sous une trique. Messieurs de Cassagnac, nous reparlent de vous ? La pointe du sonnet semble dire « N'en reparlez pas trop, car vous pourriez bien les réveiller et réveiller les valeurs qu'ils incarnent. » Cette image de soldat revenant est presque fantastique. Mais Rimbaud ne croit pas si bien dire. La défaite de Sedan, la révolution de Velours, puis l'insurrection de la Commune marquent les débuts de la Troisième République qui durera jusqu'en 1940. Le mal. On retrouve dans ce poème l'influence d'un passage très célèbre du Candide de Voltaire. Tandis que les deux rois faisaient chanter des Te Deum chacun dans son camp, Candide passa par-dessus des tas de morts. Ce double, tandis que, crée une tension. Que se passe-t-il pendant ces boucheries héroïques ? Rimbaud adopte l'ironie voltairienne. Tandis que les crachats rouges de la mitraille sifflent tout le jour par l'infini du ciel bleu, qu'écarlates ouverts, près du roi qui les raille, croulent des bataillons en masse dans le feu. Ces crachats rouges de la mitraille, contrastant avec le bleu du ciel, semble matérialiser les railleries qui sortent de la bouche du roi. La guerre est une grande moquerie. La phrase n'est toujours pas finie, mais une parenthèse, une prière, s'adresse à la nature. Ce qu'elle a fait, les guerres le détruisent, au nom de religions qui, elles, n'ont rien de saint. Pauvre mort, dans l'été, dans l'herbe, dans ta joie, nature, ô toi qui fis ces hommes saintement. L'allégorie des tercets révèle enfin ce qui indigne le plus Rimbaud. Le dieu de ces rois cupides rit lui aussi et prend tout aux veuves, enfants, économies et même le mouchoir dont elles auraient besoin pour pleurer. Il est un dieu qui rit aux nappes damassées et se réveille au camp des mères ramassées dans l'angoisse et pleurant sous leur vieux bonnet noir lui donnent un gros sou lié dans leur mouchoir. Ces mères ramassées semblent ainsi donner leur propre vie à ce dieu assoiffé de richesse et de sang, les calices d'or, de larmes et de linceuls, les nappes damassées. Rage de César. Après la défaite de Sedan en 1870, Napoléon III est fait prisonnier au château de Wilhelmshöhe. Rimbaud, aspirant à une république, écrit ce poème pour se moquer de l'empereur, mais aussi pour exprimer la vanité de tout pouvoir s'opposant à la liberté. Dans cette caricature, l'empereur destitué n'est plus qu'un homme, non pas en uniforme, mais en habit noir. Il ressemble à une bougie qui s'éteint. Pâleur de cire, petite braise du cigare aux dents, regard terne. L'homme pâle repense aux fleurs des Tuileries et parfois son œil terne à des regards ardents. Tout le poème oppose ainsi la soif de pouvoir, éreintée, c'est-à-dire exténuée, et la flamme de la liberté qui renaît. Il s'était dit « je vais souffler la liberté bien délicatement ainsi qu'une bougie ». La liberté revit, il se sent éreinté. Ce poème est aussi une énigme. Que pense l'ancien empereur en voyant les fleurs renaître ? Les questions se multiplient. Quel nom ? Quel regret ? Pas de remords ici. Il nous apparaît surtout prisonnier de ses ambitions passées. Oh, quel nom sur ses lèvres muettes tressaille, quel regret implacable le mort ? On ne le saura pas, l'empereur a l'œil mort. Les derniers vers du poème semblent répondre métaphoriquement. Ces rages de César, capables de mettre des pays à feu et à sang, n'est que vanité, il ne reste finalement qu'un fin nuage bleu. Et regarde filer de son cigare en feu, comme au soir de Saint-Cloud, un fin nuage bleu. Deuxième cahier, rêver pour l'hiver. On se souvient que Rimbaud aimait prendre le train, souvent sans billet. Ici, il invite une jeune fille à la première personne du pluriel. L'hiver, nous irons dans un petit wagon rose avec des coussins bleus. Nous serons bien, un nid de baisers fous repose dans chaque coin moelleux. Mais le voyage est curieusement statique. Le verbe aller laisse place au verbe être, au futur. Nous serons bien. Puis au verbe reposer, au présent. Ce voyage est une destination amoureuse. Mais le rêve prend bientôt des tonalités fantastiques, comme dans un cauchemar. La glace de la vitre givrée par l'hiver nous sépare d'un monde onirique où des allégories menaçantes enjambent les vers. Tu fermeras l'œil pour ne point voir par la glace grimacer les ombres du soir, ces monstruosités hargneuses populaces de démons noirs et de loups noirs. Mais on perçoit le jeu amoureux, notamment avec la répétition un peu naïve de l'adjectif noir, qui veut en faire ressortir des connotations effrayantes. On peut parler d'anaglace éventuellement. Puis tu te sentiras la joue égratignée. Un petit baiser comme une folle araignée te courra par le cou. L'effet de surprise est réservé au dernier tercet. L'impératif de la jeune fille et son geste incliné la tête indiquent bien que le jeu est désormais partagé. Et tu me diras « cherche » en inclinant la tête, et nous prendrons du temps à trouver cette bête qui voyage beaucoup. Le dernier vers, au présent de vérité générale, se moque des morales sérieuses. Le voyage est surtout une aventure sensuelle. Le dormeur du Val. Est-ce que ce poème raconte une expérience vécue ? On ne le saura jamais, mais il incarne bien les convictions de Rimbaud. La nature, simple, bienveillante, s'oppose aux ambitions mortifères des humains. La nature est très belle, la mousse rappelle l'écume de Vénus. D'ailleurs, tout déborde, les enjambements et les allitérations en L nous font entendre le chant de la rivière. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière, lui, c'est un petit val qui mousse de rayons. Et en effet, certains éléments sont déjà menaçants, le trou de verdure, les haillons d'argent, vêtements ou uniformes déchirés. Notre regard est guidé par la trajectoire descendante du soleil, peut-être celle d'un ange déchu tombant de la montagne fière. Nous découvrons alors le dormeur du titre, mais son attitude est étrange, la nuque et la tête nue, donc fragile, sont à la fois presque dans l'eau où se trouve le cresson et proche du ciel, sous la nue. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, dort. Il est étendu dans l'herbe sous la nue, pâle dans son l'hiver où la lumière pleut. L'adjectif postposé est étrange, soldat jeune. Risquer sa vie si jeune est contre nature. D'ailleurs, il rajeunit encore, devenant enfant, puis presque nouveau-né, bercé par la nature. Les pieds dans les glaïeuls, il dort, souriant comme sourirait un enfant malade, il fait un somme. Nature berce-le chaudement, il a froid. Comme pour nous rassurer, Rimbaud répète, il dort. C'est l'alchimie de la nature qui transforme la boue en or, le cadavre en fleur. Ce froid, envahissant, laisse déjà entendre la chute funèbre du poème. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit. La dernière phrase ne dure même pas un vers entier. La chute brutale dénonce parfaitement l'horreur de la guerre et nous renvoie au trou de verdure du début. En acrostiche, lit, L-I-T. La lecture révèle un lit de rivière, un lit de mort. Au cabaret vert. Étrangement, dans ce poème, Rimbaud ne raconte pas son voyage, mais une pause, le moment de repos. Les bottines sont déchirées depuis longtemps. C'est donc une petite scène sans prétention, naïve, comme les illustrations de la tapisserie. Le poète fait une demande bien simple en allongeant les jambes sous la table, verte elle aussi. C'est une couleur qui symbolise la jeunesse, l'énergie, l'espoir, la nature. C'est alors l'événement. Et ce fut adorable quand la fille aux tétons énormes, aux yeux vifs, rieuse, m'apporta des tartines de beurre. L'adjectif « adorable » se trouve alors exactement au centre du poème. Adorable, c'est-à-dire mignon, ou encore digne d'être adoré comme une divinité, voire même digne d'être doré comme une enluminure ou comme une opération alchimique. Car la serveuse arrive précisément avec ce qu'il avait demandé, des tartines de beurre. Mais c'est bien plus que ça, c'est une véritable corne d'abondance à partir du moment où revient le mot « jambon ». Du jambon rose et blanc parfumé d'une gousse d'ail et m'emplit la chope immense avec sa mousse que dorait un rayon de soleil arriéré. Le parfum, la mousse, les enjambements débordent. Le rayon de soleil arriéré empiète sur le soir et la nuit. Ce sont bien ici les principes vitaux, soleil et chair. et la fille aux tétons énormes, c'est Vénus elle-même, débarrassée des grandiloquences du Parnasse. La maligne. Vous vous souvenez du poème « Comédie en trois baisers ». On retrouve ici le motif du baiser et l'adverbe « malignement ». C'est un mot inventé, un néologisme. Ce n'est pas « malignement ». La petite comédie à laquelle on assiste est dépourvue de malignité. Nous avons d'abord la scène d'exposition. Le décor est planté, une auberge en Belgique. Peut-être est-ce toujours le cabaret vert. En tout cas, c'est une véritable scène de genre. On entend l'horloge dans le silence avec les allitérations en C. En mangeant, j'écoutais l'horloge, heureuse et quoi. La cuisine s'ouvrit avec une bouffée, et la servante vint, je ne sais pas pourquoi, fichue moitié défait, malignement coiffée. L'intrigue se noue. La porte semble s'ouvrir toute seule, la servante arrive au passé simple. C'est alors une véritable petite énigme, je ne sais pas pourquoi. Le présent souligne l'ironie, on devine déjà qu'il s'agit d'un jeu amoureux. Tout se trouve alors dans les détails de la gestuelle. Le doigt, la lèvre sont autant de synecdoques, la partie désigne le tout. Le mot « mou » rime avec « joue ». C'est bien ici un jeu d'actrice, une improvisation. Puis comme ça, bien sûr, pour avoir un baiser, tout bas, sans donc, j'ai pris une froid sur la joue. Ce froid au féminin est comme la petite bête de rêver pour l'hiver. Le baiser, c'est la clé de la petite énigme. Comme pour dire que la poésie est un baiser, elle aussi, un élan de tendresse devenu musical. Le lien de conséquence, donc, et les points de suspension, laissent entendre que le cinquième acte ne sera pas raconté. L'éclatante victoire de Sarrebruck. Rimbaud nous présente ici une caricature de Napoléon III, par un illustrateur belge qui n'est pas dupe de la propagande. Le titre est ironique, la victoire de Sarrebruck n'a rien d'éclatant. C'est donc une ekphrasis, un texte qui décrit une œuvre picturale. Mais le poème va plus loin, il anime le dessin, conduit notre regard et prépare une chute plus intelligente qu'il n'y paraît. D'abord, au milieu, l'empereur, parfaitement ridicule, sur son dada. Il joue à la guerre comme un enfant. Son point de vue, en rose, n'est que du coloriage. Il se voit féroce et doux. N'est-ce pas contradictoire? Flamboyant, très heureux, car il voit tout en rose, féroce comme Zeus et doux comme un papa. On passe alors, sans transition, aux soldats les moins gradés. Les plus naïfs, pitous, du manet, stéréotype de caricature. Sont sensibles à la propagande. D'autres restent quoi, c'est-à-dire silencieux. La dernière rime en « eux quoi » est alors particulièrement originale. Un shako surgit comme un soleil noir. Au centre, Bouquillon, rouge et bleu, très naïf sur son ventre, se dresse et, présentant ses derrières, de quoi ? Bouquillon, parce qu'il est bûcheron dans le civil, montre ses fesses. La chute est potache, mais elle a plus de portée satirique qu'il n'y paraît. Avec un simple geste, il nous fait comprendre « L'empereur peut bien diriger mes fesses, je reste libre de mes pensées. » Le buffet. Rimbaud admire Baudelaire, qui est pour lui le premier voyant, un vrai dieu. Ici, comme chez Baudelaire, le parfum, l'ivresse du vin, génère tout un monde de perceptions. Le buffet est ouvert et verse dans son ombre comme un flot de vin vieux, de parfums engageants. Le buffet devient une allégorie mystérieuse, ouvert, engageant. La répétition un peu naïve de l'adjectif « vieux, vieille » revendique une certaine simplicité, avec autodérision, un ton presque enfantin. Tout plein, c'est un fouillis de vieilles vieilleries, de linges odorants et jaunes de chiffon. Rien de précieux ici, au contraire. Une accumulation d'objets sans valeur, surannés, mais qui témoignent de vies humaines. C'est là qu'on trouverait les médaillons, les mèches de cheveux blancs ou blonds, les portraits, les fleurs sèches, dont le parfum se mêle à des parfums de fruits. Ici, la mort, cheveux blancs, fleurs sèches. Côtoie la vie, cheveux blonds, fruits. Le conditionnel et le pronom indéfini, on trouverait, implique le lecteur. C'est à lui d'imaginer le vécu derrière ces objets. Ô buffet, tu voudrais compter tes contes et tu bruis quand s'ouvrent lentement tes grandes portes noires. Ici, le buffet devient un véritable livre, plein d'histoires de contes. Et si c'était le recueil de poèmes lui-même, d'une musicalité simple, proche du bruit, les portes noires seraient un cahier ouvert. Ma bohème. Alors que Sensation était rédigée au futur, Ma bohème se retourne au passé, avec attendrissement et autodérision, sur ses longues marches et ses amours rêvés. Je m'en allais, les poings dans mes poches crevées, mon paletot aussi devenait idéal. J'allais sous le ciel, muse, et j'étais ton féal. Oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé. Le féal, figure romantique du poète chevalier qui a prêté allégeance, à qui ? À une muse dont il admire ici le ciel, c'est la nature. Mais ici, rêver rime avec crever. L'idéal s'est heurté au réel, les poings fermés à cause du froid ou de la révolte sont plongés dans des poches trouées. Mon unique culotte avait un large trou. Petit pousset rêveur, j'égrenais dans ma course des rimes. Mon auberge était à la grande ours. Mes étoiles au ciel avaient un doux froufrou. Ces trous sont comme des cornes d'abondance, semant des rimes, des graines qui sont fertiles. Le petit pousset a la plus grande auberge qui soit, la grande ours, mère de la petite ours, où brille l'étoile polaire, Vénus elle-même. L'univers du conte laisse alors la place à un univers fantastique, plus adulte et plus inquiétant. Où, rimant au milieu des ombres fantastiques, comme délire je tirais les élastiques de mes souliers blessés, un pied près de mon cœur. La pointe du sonnet annonce l'invention d'un nouveau lyrisme, non pas élevé comme celui des Parnassiens, mais proche des souliers. Symboliquement, les cailloux rimés ont blessé le pied, la syllabe. Les élastiques annoncent donc cette prose poétique plus flexible, plus libre, des illuminations et de « une saison en enfer ».